Bonsoir, c'est Onde Noire. Bienvenue dans l'émission Polar la plus rock de la bande FM.
Avec Jacques.
Et Corinne.
Bonsoir. Eh bien, au sommaire de cette émission aujourd'hui, dans une première partie, nos coups de cœur, des parutions récentes avec des livres qui nous ont interpellés et beaucoup plu. Un intervenant nouveau qu'on retrouvera régulièrement, ce qui nous fait très plaisir. Et dans une deuxième partie, la deuxième partie sera consacrée au polar jeunesse, avec encore une fois deux coups de cœur et deux livres que petits et grands pourront se partager avec délectation. Et je commence tout de suite avec, j'allais dire le dernier livre de Jean-Bernard Pouy, mais c'est même pas vrai, puisqu'entre-temps, il y en a un nouveau qui est sorti. Toujours est-il qu'il y a environ deux mois, c'est un recueil de nouvelles, mais ça compte pas pareil. Donc là, c'est un roman. Jean-Bernard Pouy, ça s'appelle La Récup. C'est sorti chez Fayard Noir en septembre. Et le prix en est de 16 euros. Alors, on vous parle régulièrement de Jean-Bernard Pouy. On l'a eu plusieurs fois en interview.
On ne citera pas le traducteur parce que Jean-Bernard Pouy écrit directement en français.
Oui, enfin, pour à peu près tout le monde, oui. C'est un ardent, Jean-Bernard Pouy, un ardent défenseur de la littérature populaire. Et quand je dis littérature populaire, c'est vraiment dans le sens noble du terme, une littérature de qualité et accessible à tous. Peut-être, pour être un peu piqué, à part le prix, 16 euros. Bon. En tout cas, dans ce livre, il nous en fait encore une fois la démonstration avec cet opus qui est, je dois le dire là, Pouy, c'est ou bon ou très bon, et le Bella, c'est du très bon. Le personnage principal, qu'on adopte tout de suite, vraiment, qui est un amour de personnage, Antoine, dit Loulou, serrurier de son état. Autre qualité, l'histoire, une intrigue ficelée aux petits oignons. Deux mots sur cette intrigue d'ailleurs. En gros, Antoine range des voitures pour ce qui est de la cambriole, se voit proposer 10 000 euros pour aider à un casse. Vous avez compris que sa spécialité, c'était d'ouvrir les coffres. C'est comme ça qu'il s'est recyclé en tant que serrurier. En fait, le casse se passe, tout va bien, sauf qu'il finit à l'hosto avec une overdose qui a failli le tuer, évidemment sans le fric promis. Alors, le brave Loulou, rangé des voitures, ben, il va se prendre pour Lee Marvin dans un film fantastique, parenthèse hautement recommandable, qui s'appelle Point Blank. On a beau être malfaiteur, monsieur, on a notre honnêteté et on doit être payé pour le travail. Travailler plus pour gagner plus, finalement, ça pourrait être la devise de Antoine. Donc, notre brave petit serrurier, un peu vieillissant, un peu plus très agile, va tenter très patiemment de retrouver ses commanditaires pour récupérer ses 10 000 euros. Malheureusement, il va tomber sur un os et se frotter à de très, très méchants, des Russes, et puis des sombres histoires politico-financières. En plus de cerises sur le gâteau, spoliation de tableaux, trafic de tableaux volés, enfin, tout y passe. En gros, Antoine contre les méchants, le pot de terre contre le pot de fer. C'est pas grave, finalement, Antoine s'identifie à Parker, Lee Marvin dans le film Point Blank, un espèce de tough guy qui est un des héros de Richard Stack, autrement dit Donald Westlake. Il fonce, advienne que pourra. C'est vraiment un roman très agréable à lire et dans la plus pure veine de Jean-Bernard Pouy. Alors on peut s'essayer à quelques adjectifs, pouillin, pouilliste, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est synonyme de qualité. Aussi bien dans la narration que dans l'écriture, avec des envolées baroques ou des jeux de mots. Bon, des fois les jeux de mots, ils sont un peu foireux, mais ils sont complètement irrésistibles. Donc, hautement recommandable, La Récup, Jean-Bernard Pouy, c'est chez Fayard Noir. Et puis, quand vous aurez lu ce livre, ça vous donnera envie de regarder ce film, Point Blank, un film des années 70, si je ne m'abuse, avec Lee Marvin, qui est magnifique. Jacques, on revient en Provence.
On revient en Provence avec un auteur que vous connaissez très probablement, mais pas comme auteur de polar, parce que c'est un ancien maire de Marseille. Le dernier des bons maires
celui
de Marseille,
qui est pas
si,
mort.
Si je peux me permettre, donc Robert Vigouroux. Quand j'ai vu ce livre, je me dis oh là là, Les Cahiers du Sud, donc il s'est publié à Les Cahiers du Sud, ils font un petit coup pour vendre un truc comme ça. Mais finalement, bon, quand même, Robert Vigouroux a laissé un bon souvenir à Marseille, donc je me suis attaqué à ce livre. En plus, il s'appelle Un voyageur pour Palerme, et Palerme, bon, ça fait toujours envie.
Oui, enfin bon, ça dépend pour qui, hein. Il y a des gens en ce moment.
Oui, certainement. Donc, le pitch, pour vous situer le livre, c'est un cadre moyen, tranquille, sans histoire, dans une entreprise d'import-export, ça déjà, qui est chargé par son boss d'aller porter une lettre en main propre à Palerme à un associé, pour un futur contrat. Mais bien sûr, pour que tout ça marche, tout doit rester secret. Il fait quand même, pour arriver à Palerme, un détour par Rome et par Naples. Et au moment où il doit rejoindre le destinataire, donc justement dans la banlieue de Palerme, celui-ci est assassiné, et notre héros est lui-même attenté, si j'ose dire. Il subit un attentat, enfin, il y a deux balles qui viennent...
Se nicher pas loin de lui.
Dans sa voiture, voilà. Donc le chauffeur est quasiment mort, et lui, pareil. Voilà, mais comme justement il meurt pas, il va vouloir savoir qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Surtout que, bizarrement, son patron, celui qui avait confié cette lettre, a aussi un accident de voiture, donc pour le moins suspect.
Décidément, ils n'aiment pas les voitures.
Voilà, ça sera donc une quête de vérité qui sera parsemée, n'est-ce pas, on sera en Italie pour la plupart du temps, de morts très violentes. Il y a un truc qui est pas mal aussi dans ce livre, c'est que l'auteur, donc Robert Vigouroux, rajoute un deuxième narrateur, qui est le tueur à gages, qui descend la plupart donc, des morts dont je viens de...
C'est un peu le boulot d'un tueur à gages.
Oui,
hein.
Sauf que là, d'habitude, le tueur à gages, il se raconte rarement. Là, donc, il donne un peu sa vision de l'affaire, de derrière le viseur du fusil, car c'est là ce qu'il utilise la plupart du temps. Et donc, lui, c'est une narration froide et sèche. Il fait son métier, il reçoit une commande, il la prépare et l'exécute, un peu comme à la Redoute. Mais lui aussi, il voit très bien que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient et il cherche à savoir pourquoi toutes ces histoires, parce qu'en fait, ça va à l'encontre de sa propre éthique. Quant à notre voyageur pour Palerme, il semble subir les événements au début, puis petit à petit, il va prendre son destin en main, il a marre d'être manipulé, et il va essayer donc de déterminer un peu ce qui lui arrive. On sent tout à fait que Robert Vigouroux s'est amusé à écrire ce roman. Non pas qu'il soit parfaitement drôle, mais il y met, comme souvent dans les premiers romans, un tas de choses qu'il aime. Il nous raconte, il nous décrit sa vision de l'Italie, de la Sicile, de Naples. Il va même à Capri. Et puis, il se fait plaisir, vieux fantasme d'auteur, un peu James Bondien. À chaque fois qu'il y a une nana, paf, il se la tombe.
Ouh, j'ai eu peur du,
oui, je peux dire
du verbe, du oui, verbe employé. Mais, voilà, bon, mais bon, jetons un voile pudique.
Et bien sûr, il se doute bien que parfois, certaines sont en service commandé. Mais bon, après tout, il y a des choses qui sont toujours bonnes à prendre, si j'ose dire. En plus, il y a un vrai plaisir d'écrire. Il n'y a pas un style extraordinaire, mais on sent qu'il y a des belles phrases, les phrases cool d'elles-mêmes, j'allais dire. C'est parfois un peu bavard, mais toujours dans une belle langue. Ça m'a vaguement fait penser, alors ça, j'espère qu'on ne m'en voudra pas, ni lui, ni Marcel Aimé, mais ça m'a beaucoup fait penser à certains romans de Marcel Aimé que j'ai lus il y a bien longtemps.
C'est pas une mauvaise référence.
Donc Robert Vigouroux, Un voyageur pour Palerme, paru à l'Écaillier du Sud pour 8 euros.
Eh bien maintenant, c'est le moment d'écouter un petit morceau de musique. On ne va pas écouter le morceau de musique en entier, mais il faut que je précise, voilà, que c'est un morceau en hommage. On fait des hommages fréquents, malheureusement, en ce moment, mais les auteurs de polar tombent beaucoup cet automne, à un grand du polar américain qui s'appelait Tony Hillerman, et qui est un, avec deux ou trois autres, un des inventeurs de ce qu'on peut appeler le polar ethnologique. Il a beaucoup écrit et travaillé, il sait énormément de choses sur les coutumes des Navajos, et ses livres sont un vibrant hommage à ces tribus qui sont laminées aux États-Unis depuis maintenant pratiquement deux siècles. Ces deux héros, Jim Shea et Jolip Horn, on suit leurs aventures depuis le premier jusqu'au dernier de ces romans, à découvrir chez Rivage Noir. Je crois qu'ils sont tous
republiés.
La plupart,
oui, ils sont publiés.
Un conseil, les prendre dans l'ordre parce que on suit l'histoire de ces deux personnages d'une certaine jeunesse jusqu'à une maturité, voire un début de vieillesse.
Au début, il n'y a que Jolip Horn. Ensuite, le petit jeune Jim Shea arrive et puis Jolip Horn s'en va à la retraite, etc.
Voilà, et c'est très beau. Enfin, c'est très, très intéressant. Donc, Porteur de peau, par
exemple. Et donc, pour lui rendre hommage, on n'a pas pris un Indien Navajo parce que j'en ai pas trouvé, mais on a pris Robbie Robertson, qui est connu comme le guitariste, compositeur du band. Mais c'est aussi un Indien Mohawk par sa maman. Voilà, donc un petit morceau d'un de ses derniers disques qui date déjà il y a pas mal de temps que vous allez écouter.
echoes brought the message to the children of the sun. For the return of the buffalo and for a better day to come.
You can kill my body, you can damn my soul. I'm not believing in your God and some world down below. You don't stand a chance against my prayers. You don't stand a chance against my love. Your law, the gold stands. The old law, the gold stands.
Voilà un court morceau, mais Robbie Robertson en hommage à Tony Lehrman. On va inaugurer une nouvelle rubrique, et cela avec l'amitié de Jean-Marc Laherrère. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Donc deux mots pour vous présenter. Vous êtes un fan de polar et on va dire un amateur éclairé qui n'est pas loin d'un pro. Donc on va essayer de vous avoir régulièrement pour que vous puissiez nous raconter un petit peu votre coup de cœur du mois, du trimestre, enfin un livre qui vous a particulièrement interpellé, que vous avez aimé. Ce soir, je crois que vous allez nous parler d'un livre paru chez Fayard.
Exactement, oui. C'est un livre paru chez Fayard Noir qui s'appelle « Noir béton ». C'est un livre d'un Américain, Eric Miles Williamson.
Et on va tout de suite vous demander, s'il vous plaît, le traducteur, parce que nous, la traduction nous importe beaucoup.
Alors, je vais ouvrir le livre et je vais vous dire tout de suite qui a traduit. C'est Christophe Mercier.
Christophe Mercier, voilà.
Voilà.
Donc, peut-être, alors, on va peut-être commencer par, décrire un tout petit peu l'intrigue.
Oui, l'intrigue, où il n'y a pas vraiment d'intrigue. En fait, ce que je vais faire, c'est vous présenter un peu Eric Miles Williamson. C'est un nom presque inconnu, bien qu'un premier roman ait été publié déjà dans La Défunte Noire, de chez Gallimard, qui était déjà à l'époque dirigé par Patrick Reynal.
Patrick Reynal.
Voilà, ce roman était paru en 2003, il s'appelait Gris Oakland, donc on voit qu'on reste dans le gris et le noir,
et le noir.
On passe à noir béton. Eric Miles Williamson a été un ouvrier du bâtiment qui s'est mis à l'écriture avec Gris Oakland, et aussi bien dans noir béton maintenant que dans Gris Oakland, il décrit ce milieu qu'il connaît bien, celui des ouvriers du bâtiment qui travaillent dans la Gunite. Alors, la Gunite, vous savez peut-être pas ce que c'est.
Non, j'allais poser la question, quelle bonne...
Voilà, alors j'ai ouvert mon Robert et j'ai trouvé Gunite, qui vient de l'anglais Gunite, de gun, canon. Et
oui.
C'est un mélange de sable et de ciment qui est projeté comme enduit par un canon, justement. Pour remettre en état des constructions armées, en béton armé, pour renforcer des piliers de pont, pour renforcer des vieux immeubles. Donc ces gens, tous ces les personnages de ce roman travaillent dans la Gunite. Alors les personnages, c'est un certain nombre d'ouvriers qu'on suit. Broad Street, qui est un gars qui essaye de noyer ce qu'il vit dans l'alcool. Rex, qui va rester un personnage assez mystérieux jusqu'au bout, qui a l'air d'aimer son travail même s'il hait les contremaîtres et si on sent depuis le début qu'il, d'une façon ou d'une autre, il sait quelque chose sur le patron qui lui permet d'être employé quoi qu'il fasse. Toute une équipe de Mexicains plus ou moins clandestins, Juan, Don Gordo, tout, des gens qui renvoient tout leur argent au Mexique.
Des gens travaillent clandestinement dans le bâtiment, quoi.
Voilà. Et un personnage très étonnant qui apparaît au premier quart du roman, un certain Root, un mormon complètement halluciné, allumé, qui est une espèce de mystique de la Gunite.
C'est joli comme allitération, c'est joli. Un mystique de la Gunite.
C'est vraiment ça. Il pense que les ouvriers de la Gunite sont une espèce d'élus, sont des élus qui sont là pour faire le travail que personne ne veut faire et que personne ne peut faire, et que si seuls les vrais hommes et les vrais de vrais arrivent à faire ce travail. Alors, il faut dire que ce travail, il est dur. C'est un travail, il est très dangereux. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'accidents parce que le canon envoie le béton avec une forte pression.
J'imagine, avec une pression énorme.
Voilà, parce que les ouvriers syndiqués liés aux syndicats n'ont pas tellement envie de faire ce boulot. Donc, en général, ce sont des non-syndiqués et les patrons se contentent de filer des bakchiches aux syndicats pour qu'ils ne regardent pas. Parce qu'il y a beaucoup de clandestins qui, eux, n'ont bien sûr aucune protection et on se fiche complètement de savoir s'ils vont mourir, perdre un doigt, un pied, une main ou autre.
Oui, puis c'est vrai que quand un clandestin meurt, on connaît d'autres pays où ça ne fait pas grand-chose finalement. Hein.
Oui, oui, il y en a pas mal.
Ça touche pas grand monde.
Voilà, alors là, ce qu'il y a, c'est que en France, par exemple, je n'ai pas connaissance de romans comme ça. Là, on y est avec eux. On trempe dans la gunite, on en a avec eux plein les yeux, plein les cheveux, plein la peau. On la sent, on n'arrive pas à s'en dépêtrer en sortant du roman. C'est très très fort pour ça.
Oui, donc apparemment, une des grandes qualités de ce roman, c'est justement la description de ce milieu de travail.
Exactement, la description de ce milieu de travail et comment ça... Un milieu complètement déstructuré, si on compare par exemple au roman d'un autre Américain qui décrit le milieu du bâtiment, qui est Thomas Kelly.
Thomas Kelly, oui, avec les bâtisseurs de l'Empire.
Voilà, mais qui lui décrit un monde très organisé, avec des luttes de pouvoir entre mafias, syndicats, politiques. Là, on est le cran en dessous encore. Ceux qui sont en dessous de cela, ceux qui n'ont droit à aucune organisation, aucune protection, et qui finalement survivent. Ils survivent tout le temps. Ils survivent quand ils font de la gunite, ils survivent quand ils sortent de là et qu'ils boivent pour essayer de se sortir le bruit et l'odeur qu'ils ont sur eux. Et ils finissent tous, plus ou moins, à un moment ou à un autre, par mourir, malheureusement, parce qu'on a l'impression que c'est leur lot inéluctable.
Mmh. Oui, c'est inéluctable et c'est leur destin, quoi, en fait.
Voilà, c'est leur destin. Et d'une certaine façon, il arrive aussi à rendre, c'est très paradoxal, la fierté qu'ils ont de faire ce travail dont personne ne veut et que personne d'autre ne peut faire.
Oui, c'est... Ils arrivent à être, je ne sais pas comment on dit, mais les barons. Il y a une hiérarchie dans les bâtisseurs et eux sont en quelque sorte le haut du pavé, même si pour ça ils doivent en crever. Quoi.
Voilà, ils sont en fait à la fois le haut et le bas du pavé. Le bas parce que c'est eux les moins bien traités, mais ils se considèrent eux comme le haut parce que c'est les plus courageux finalement.
Eh bien, ça donne beaucoup envie de lire ce roman qui m'a l'air très très noir. Qui touche vraiment au fondement du roman noir où on parle des gens dont on n'a pas l'habitude de parler dans beaucoup de romans. Le temps passe vite, donc je vais vous demander de redonner le titre et le nom de l'auteur et la collection, s'il vous plaît.
Alors, le titre, Noir Béton, l'auteur est Eric Miles Williamson et c'est chez Fayard Noir.
Jean-Marc Laherrère, merci beaucoup et j'espère à très bientôt.
Merci à
vous.
Au revoir. Bonne continuation.
Merci.